Onzième partie, la liberté. Le jour de ma libération, je me suis réveillé à 4h30, après seulement quelques heures de sommeil. Le 11 février était une journée claire de fin d'été au Cap. J'ai exécuté une version raccourcie de mes exercices matinaux. Je me suis lavé et j'ai pris mon petit déjeuner. Puis j'ai téléphoné à un certain nombre de personnes de l'ANC afin qu'elles viennent préparer ma libération et travailler sur mon discours. Le médecin de la prison est arrivé pour m'examiner rapidement. Je ne me suis pas attardé sur ma proche libération, mais sur tout ce que je devais faire auparavant. Comme cela arrive si souvent dans la vie, l'importance capitale d'une situation se perd dans la confusion d'un millier de détails. Ma libération était prévue à 15 heures. Mais Walter, Winnie et les autres passagers de l'avion spécial en provenance de Johannesburg ne sont arrivés qu'après 14 heures. Il était prévu qu'une voiture nous emmènerait, Winnie et moi, jusqu'aux portes de la prison. J'avais fait savoir aux autorités que je voulais pouvoir dire au revoir aux gardiens qui m'avaient surveillé, et j'avais demandé qu'ils m'attendent avec leur famille à la porte, où je pourrais les remercier individuellement. Quelques minutes après 15 heures, un journaliste célèbre de la SABC m'a téléphoné pour me demander de descendre de voiture quelques centaines de mètres avant les portes de la prison, afin qu'on puisse me filmer en train de marcher vers la liberté. Cela m'a semblé sensé, et j'ai accepté. À 15h30, j'ai commencé à me sentir nerveux, car nous étions déjà en retard sur l'horaire prévu. J'ai dit aux membres du comité de réception que les miens m'attendaient depuis plus de 27 ans, et que je ne voulais pas les faire attendre plus longtemps. Un peu avant 16h, nous avons quitté la maison en petit convoi. À 400 mètres des portes, la voiture s'est arrêtée. Winnie et moi sommes descendus et partis à pied vers la sortie. Tout d'abord, je n'ai pas compris ce qui se passait devant nous. Mais à une cinquantaine de mètres, j'ai vu une énorme agitation et une foule immense. Des centaines de photographes, des caméras de télévision, des journalistes et des milliers de gens. J'étais abasourdi et un peu inquiet. Je ne m'étais absolument pas attendu à une telle scène. J'avais pensé qu'il y aurait tout au plus quelques dizaines de personnes, principalement les gardiens et leurs familles. Mais ce n'était que le commencement. Je me suis rendu compte que nous n'avions absolument pas prévu ce qui allait se passer. À 50 mètres de la porte, les caméras se sont mises à ronronner. Les journalistes ont crié des questions, les reporters de télévision se sont attroupés. Les partisans de l'ANC poussaient des hurrahs, c'était un chaos, joyeux mais un peu troublant. Quand une équipe de télévision a lancé vers moi un objet long et velu, j'ai eu un mouvement de recul, en me demandant si l'on n'avait pas inventé une arme dernier cri pendant que j'étais en prison. Winnie m'a dit qu'il s'agissait d'un micro. Quand je me suis retrouvé au milieu de la foule, j'ai levé le poing droit et il y a eu une clameur. Je n'avais pas pu faire cela depuis 27 ans. Et j'en ai éprouvé une sensation de joie et de force. Nous ne sommes restés que quelques minutes au milieu de la foule avant de remonter en voiture pour aller au Cap. Tout en étant très heureux d'avoir reçu un tel accueil, j'étais irrité de ne pas avoir pu dire au revoir au personnel de la prison. Quand enfin j'ai franchi les portes pour monter en voiture de l'autre côté, j'ai senti, même à 71 ans, que ma vie recommençait. Mes 10 000 jours d'emprisonnement avaient pris fin. Le Cap se trouve à 50 km au sud-ouest. Le comité de réception avait organisé un rassemblement sur l'immense place de la Parade qui s'étend devant l'hôtel de ville. Je devais parler depuis le balcon qui domine la place. Je me suis avancé sur le balcon et j'ai vu une mer infinie de gens qui criaient, qui levaient des drapeaux et des banderoles, qui applaudissaient et qui riaient. J'ai levé le poing, et la foule a répondu par une immense clameur. Ces acclamations ont ranimé en moi l'esprit de la lutte. J'ai crié « Amandla !»« Ngawetu !» a répondu la foule. « Africa, Maibouye !» Enfin, quand la foule s'est un peu calmée, j'ai sorti mon discours. « Amis, camarades, compagnons sud-africains, je vous salue tous au nom de la paix, de la démocratie et de la liberté pour tous. Aujourd'hui, le monde, noir et blanc, reconnaît que l'apartheid n'a pas d'avenir. Il faut mettre fin au monopole blanc sur le pouvoir politique. Nous avons attendu trop longtemps notre liberté. Vos sacrifices infatigables et héroïques m'ont permis d'être ici aujourd'hui. Et je place les années qui me restent à vivre entre vos mains. Mes paroles venaient du cœur. Je voulais avant tout dire au peuple que je n'étais pas un messie, mais un homme ordinaire, qui n'était devenu un leader qu'en raison de circonstances extraordinaires. J'ai annoncé à la foule en termes clairs que l'apartheid n'avait plus d'avenir en Afrique du Sud et que le peuple ne devait pas diminuer ses campagnes d'action de masse. La perspective de la liberté qui se dessine à l'horizon doit nous encourager à redoubler d'efforts. Je sentais qu'il était important d'expliquer publiquement la nature de mes discussions avec le gouvernement. Aujourd'hui, ai-je dit, je veux vous dire que mes discussions avec le gouvernement ont eu pour but de normaliser la situation politique du pays. Je veux insister sur le fait qu'à aucun moment je n'ai entamé de négociations sur l'avenir de notre pays, sauf pour réclamer une rencontre entre l'ANC et le gouvernement. Il était vital pour moi de montrer à mon peuple et au gouvernement que je n'étais ni vaincu ni soumis, et que pour moi la lutte n'était pas terminée, mais recommençait sous une forme différente. J'ai affirmé que je restais un membre loyal et discipliné du Congrès national africain. J'ai encouragé les gens à retourner aux barricades, à intensifier la lutte. Nous parcourrions la dernière étape ensemble. La politique d'apartheid a créé une blessure profonde et durable dans mon pays et dans mon peuple. Il nous faudra des années et peut-être des générations pour guérir de ce mal terrible. Mais les décennies d'oppression et de brutalité ont eu un autre effet, inattendu celui-là, produit par les Oliver Tambo, les Walter Sisulu, les Lou Touli, les Youssouf Dadou, les Bram Fischer, les Robert Sobukwe de notre temps. Des hommes d'un tel courage, d'une telle sagesse, d'une telle générosité, qu'on ne verrait jamais leurs semblables. Peut-être faut-il ces abîmes d'oppression pour créer une telle grandeur de caractère. Mon pays est riche en minerais et en pierres précieuses enfouies dans son sol. Mais j'ai toujours su que sa plus grande richesse était son peuple, plus fin, plus pur que ses diamants les plus purs. Mon engagement envers mon peuple, envers les milliers de Sud-Africains que je ne connaîtrai ni ne rencontrerai jamais, c'était fait aux dépens des gens que je connaissais et aimais le plus. C'était aussi simple et pourtant incompréhensible que lorsqu'un enfant demande à son père « Pourquoi est-ce que tu ne peux pas venir avec nous ?» Et le père doit prononcer ces paroles terribles « Il y a d'autres enfants que toi. » Des milliers d'autres. Et sa voix se brise. Je ne suis pas né avec une fin de liberté, je suis né libre. Libre de toutes les façons que je pouvais connaître. Libre de courir dans les champs près de la hutte de ma mère. Libre de nager dans le ruisseau clair qui traversait mon village. Libre de faire griller du maïs sous les étoiles et de monter sur le dos large des bœufs au pas lent. Tant que j'obéissais à mon père et que je respectais les coutumes de ma tribu, je n'étais pas inquiété par les lois de l'homme ou de Dieu. Ce n'est que lorsque j'ai appris que la liberté de mon enfance était une illusion, et que j'ai découvert, jeune homme, qu'on m'avait déjà pris ma liberté, que j'ai commencé à avoir faim d'elle. Mais alors, j'ai lentement découvert que non seulement je n'étais pas libre, mais que mes frères et mes sœurs ne l'étaient pas non plus. J'ai vu qu'il n'y avait pas que ma liberté à être réduite, il y avait aussi celle de tous ceux qui me ressemblaient. C'est alors que j'ai rejoint le Congrès national africain, et c'est alors que ma fin de liberté personnelle est devenue fin de liberté pour mon peuple. Les chaînes que portait un de mes compatriotes, tous les portaient. Les chaînes que tous portaient, je les portais. C'est au cours de ces longues années solitaires que la fin de liberté pour mon peuple est devenue fin de liberté pour tous, blancs et noirs. Je savais parfaitement que l'oppresseur doit être libéré tout comme l'oppressé. Quand j'ai franchi les portes de la prison, telle était ma mission. Libérer à la fois l'opprimé et l'oppresseur. Certains disent que ce but est atteint. Mais je sais que ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que nous ne sommes pas encore libres. Nous avons seulement atteint la liberté d'être libres. Le droit de ne pas être opprimé. Nous n'avons pas encore fait le dernier pas de notre voyage. Nous n'avons fait que le premier sur une route plus longue et difficile. J'ai parcouru ce long chemin vers la liberté. J'ai essayé de ne pas hésiter. J'ai fait beaucoup de faux pas. Mais j'ai découvert ce secret. Après avoir gravi une haute colline, tout ce qu'on découvre, c'est qu'il reste beaucoup d'autres collines à gravir. Je me suis arrêté un instant pour me reposer, pour contempler l'admirable paysage qui m'entoure, pour regarder derrière moi la longue route que j'ai parcourue. Mais je ne peux me reposer qu'un instant. Avec la liberté viennent les responsabilités. Et je n'ose m'attarder, car je ne suis pas arrivé au terme de mon long chemin.